Nzamba.
Nzamba irasamirana.
Le journal avec Benny Axelakana.
Nous sommes samedi 21 mai 2022. Vous êtes bien sûr là, de Inzamb, Agathe Kakaoué. C'est l'heure du journal. Tout d'abord les titres. Le président Tshisekedi aurait-il changé d'avis? Une question qui s'explique par le fait qu'il est attendu à Bujumbura depuis la matinée de ce samedi. En attendant, un expert de la RDC nous parlera de la situation sécuritaire dans ce pays dans le contexte de sa récente adhésion dans l'EAC. Les voix pour réclamer la libération du docteur Christophe Sahabo continuent de s'élever. Cette fois, il s'agit des avocats de la société SwissMed International, actionnaire majoritaire de Kira Hospital. Pour les juristes, Christophe Sahabo est indûment emprisonné. Et puis, l'angoisse est des plus grandes dans les familles des militaires qui ont péri dans l'attaque du 3 mai dernier. Un sentiment qui s'explique par le silence des autorités qui entourent ce dossier. À toutes, à tous, bonjour, bonsoir, bienvenue.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
Commençons cette édition par cette brève. Félix Tshisekedi est attendu au Burundi depuis le matin de ce samedi. Il était prévu qu'il arrive à 11h du matin à l'aéroport international Melchior Ndadaye. Jusqu'à 18h, heure de bouclage de notre journal, aucune raison de ce changement de programme n'avait encore été communiquée. S'il venait à arriver, ce serait alors la deuxième visite du président congolais dans le pays. Elle interviendrait quelques 2 mois après l'adhésion de la RDC dans la communauté est-africaine, une adhésion qui a poussé la région à entamer des démarches pour amener la paix dans l'EAC. Un processus qui doit passer par la lutte contre la nuisance des groupes armés dans Burundi qui pullulent en République démocratique du Congo. Une question qui devrait certainement figurer sur l'agenda de la visite du président Tshisekedi. Justement, il est encore trop tôt pour parler du retour de la sécurité en RDC. C'est l'analyse de Rigan Mividi, chercheur au sein du baromètre sécuritaire du Kivu. Pour lui, chaque acteur doit jouer son rôle de manière sincère pour que le dividende sécuritaire des pourparlers qui viennent de commencer à Nairobi soit visible sur le terrain. Écoutez Rigan Mividi.
Il nous semble que peut-être qu'il faudra attendre que voilà tout ce qui a été décidé soit mise en place, parce que selon les informations qu'on a reçues, bien sûr il y avait cette partie-là où il y a de pourparlers avec les groupes armés, en tout cas pour ceux qui étaient présents en Nairobi. Et puis ensuite, il y aura une autre phase à Goma, et sur base de cela qu'on saura un peu plus sur la démarche qui suit. Est-ce que le programme de désarmement, de mobilisation et réinsertion prend les relais? Qu'est-ce qu'on fait des groupes armés étrangers? Mais aussi, il y a cette question de la force régionale, dont on ne connaît pas encore le contour jusqu'à aujourd'hui. Selon les informations qu'on a reçues, c'est que voilà, les discussions continuent, il y a beaucoup de formats proposés, mais jusque-là, il n'y a pas encore une décision définitive. Bien sûr, il faudra que chaque acteur puisse s'engager de manière sincère à faire sa part. Les groupes armés, d'une part, les États qui doivent soit discuter avec les groupes armés qui sont ressortissants de leur pays.
La société SwissMed International, actionnaire principal à Kira Hospital, s'inscrit en faux contre l'emprisonnement du docteur Christophe Sahabo, ancien directeur général de cet hôpital. C'est le contenu d'une correspondance adressée au président du conseil d'administration de Kira Hospital, Charles Ndagijimana. Les avocats de la société SwissMed International demandent la libération immédiate de Christophe Sahabo. Pour eux, le médecin est détenu injustement. Le contenu de cette correspondance avec Jean-Marie Ndabashinze.
Dans cette correspondance adressée au président du conseil d'administration de Kira Hospital, l'incarcération de Christophe Sahabo n'a pas été précédée par aucune enquête ou instruction pénale, ce qui constitue une violation flagrante de la présomption d'innocence dont doit bénéficier tout prévenu. La société SwissMed, à travers son avocat, demande la libération sans condition du docteur Sahabo, car détenu injustement. Concernant la prétendue démission du docteur Christophe Sahabo, elle est nulle, car il s'agit d'une démission forcée. Les actionnaires de cette société qui détient beaucoup d'actions dans Kira Hospital contestent la validité de l'intégrité des décisions prises à partir du 1er avril 2022 par les organes de Kira Hospital, car prises sans la participation et le libre consentement de l'actionnaire principal. Cette correspondance rejette aussi le courrier daté du 20 avril, signé par Charles Ndagijimana, le président du conseil d'administration de Kira Hospital, signifiant le remplacement de des administrateurs démissionnaires. Ces désignations, selon le courrier, ont été faites en violation de la loi. La société SweetMed rejette toute augmentation de capital réservée à tout actionnaire existant en violation de la loi burundaise si les sociétés, tout comme toutes ces stations forcées des actions. La correspondance signée par Serge Rouvenet demande au président du conseil d'administration de lui transmettre les feuilles de présence et les procès-verbaux de l'Assemblée générale et de la séance du conseil d'administration par laquelle Charles Ndagijimana a été désigné président du conseil d'administration et Sylvain Pierre Nzeimana comme directeur général, conclut la correspondance.
Grogne chez les habitants de la commune Matana et Rutovu, c'est dans la province Matana. Ils accusent le parti CNDD-FDD de les forcer à contribuer pour la construction de la permanence provinciale de ce parti. Ces habitants demandent aux autorités administratives de suivre de près cette situation. Vanessa Muiteka.
Ce sont les Imbonerakure du parti CNDD-FDD qui sont derrière cette contribution forcée, affirment les habitants de ces communes. En commune Rutovu, tout véhicule qui s'approvisionne sur l'unique station-service de Kato est obligé de payer 5000 francs avant d'être servi. Un Imbonerakure tient un carnet de reçus sur la pompe. Les passants se demandent comment les Imbonerakure s'arrogent le droit d'interdire les gens à être servis sur une station pour le compte du parti. Même chose au marché commune Matana. Toute personne qui fait entrer une vache dans son marché, qu'il soit acheteur ou vendeur, doit payer cette contribution de 5000 par vache. Ces habitants demandent aux autorités administratives de la localité de stopper ce comportement de forcer des personnes qui ne sont pas militants du CNDD-FDD à contribuer pour sa permanence. Signalons que c'est dans les seules provinces de Bururi et Rutana où le parti CNDD-FDD n'a pas de permanence provinciale. Radio Inzamba, on n'a pas encore réussi à joindre les administratives de ces communes ainsi que les responsables du parti CNDD-FDD au niveau provincial en vue de donner la lumière sur ces grognes de ses habitants.
Inzamba.
Il s'observe une recrudescence des cas de grossesse non désirée dans les milieux scolaires en province Kayanza. Au cours du seul deuxième trimestre de cette année scolaire 2021-2022, une cinquantaine de cas ont été enregistrés. La responsable scolaire dans cette circonscription dit être inquiétée par cette situation. Pour éradiquer ce fléau, ils invitent les parents à multiplier des séances d'échange avec leurs enfants, des séances portant sur la santé sexuelle et reproductive. Les détails avec Alexandre Niyungeko.
47 cas de grossesse non désirée ont été enregistrés selon les données publiées dans le rapport de fin du deuxième trimestre de l'année scolaire en cours par le Bureau provincial de l'éducation en province de Kayanza. Parmi ces cas, 37 étaient du poste fondamental et 10 autres étaient de l'école fondamentale. Le constat est que les chiffres vont crescendo parce qu'on avait enregistré 29 cas au cours du premier trimestre de cette année. Au total, on a déjà enregistré 76 cas au cours des deux trimestres et parmi les causes majeures de ces grossesses, comme l'évoque le Bureau provincial de l'éducation à Kayanza, il s'agit entre autres de l'envie chez les jeunes filles d'avoir des objets de valeur tels que smartphones, le fait de ne pas supporter la pauvreté dans le ménage, font que les filles cèdent très facilement aux sollicitations des hommes, cherchant à les entraîner dans les mauvaises habitudes. Aussi, le cas des mauvaises compagnies est cité par les mêmes responsables. À cet effet, le Bureau provincial de l'éducation invite les filles se trouvant encore sur le banc de l'école à faire preuve de l'abstinence sexuelle, éviter également de céder au langage alléchant des hommes. Aux parents, on leur demande de mener de façon permanente des échanges avec leurs enfants, des échanges en rapport avec la santé sexuelle et reproductive, afin que ce fléau soit définitivement éradiqué dans les milieux scolaires.
Lancement ce vendredi de la campagne de paiement des caféiculteurs par le ministère de l'Agriculture pour l'année 2022-2023. L'activité s'est déroulée dans les enceintes de l'Office de décortiquage du café au Deka, dans la province de Ngozi. Le ministre de l'Agriculture, Déogide Rurema, s'est réjoui de l'état d'avancement dans la production du café au Burundi. Il a annoncé aux caféiculteurs qu'il est prévu une prime qui va s'ajouter pour chaque kilo de café vendu en fonction de sa qualité. Le point avec Joséphine Jones-Munzima.
Cette campagne de paiement des caféiculteurs va continuer dans d'autres provinces du pays, comme l'a annoncé le ministre Déogide Rurema.
Nous venons d'ouvrir la première saison pour le paiement des caféiculteurs. La deuxième saison est prévue pour le mois d'août, comme vous le savez. Nous lançons cette campagne pour toutes les provinces du pays. C'est notre premier message. Nous nous sommes consultés avec tous ceux qui sont dans le domaine du café pour savoir si le café exporté à l'extérieur du pays nous a apporté beaucoup plus. Le constat est que nous avons gagné puisqu'on ne s'y attendait. Ainsi, le deuxième message consiste à ajouter des primes pour chaque kilo de café vendu pendant la saison de 2021-2022. Pour les caféiculteurs qui vendent à l'État, c'est-à-dire auprès de l'ODK, ils vont bénéficier d'une prime par le kilo. Nous allons ajouter autour de 100 francs le kilo pour ceux qui vendent le bon café, c'est-à-dire 150 francs le kilo. Pour le café non trié, vous allez avoir 75 francs de plus.
Selon un des agriculteurs, il serait préférable de distribuer à temps l'engrais chimique pendant la saison culturelle.
Il faut qu'on distribue l'engrais chimique à temps pour chaque caféiculteur et surtout pendant la saison culturelle. Autre chose, à chaque fois qu'on arrive à l'usine, nous amenons un café trié et bien préparé. Curieusement, les acheteurs le trient pour la deuxième fois. Au lieu de vendre les 10 kilos que vous avez amenés à l'usine, vous restez avec 6 ou 5 kilos, ceci nous décourage beaucoup. Il faut qu'ils nous achètent le café tel qu'il est. Si c'est 50 kilos, il faut nous payer le café en considérant les kilos apportés, c'est-à-dire les 50.
Ces caféiculteurs demandent que le prix du café soit revu à la hausse, car la vie est devenue chère ces temps-ci et les prix de certains denrées alimentaires sont élevés.
C'est le moment de suivre le mini-magazine au cœur de la société. Nombre de militaires burundais qui ont péri dans la récente attaque d'Al-Shabaab en Somalie ne reverront plus leur mère patrie. Les familles de ces militaires en mission de maintien de la paix sont dans le désespoir total. Le mini-magazine d'aujourd'hui va se pencher sur l'impact du silence de l'armée burundaise en rapport avec ces événements, notamment sur la vie des familles des victimes. Au cœur de la société, vous est présenté par Marie-Ange Irakoze.
Au cœur de la société. Au cœur de la société est une émission de tous les samedis, préparée en synergie par les radios Inzamba Agathe Kakawe, Radio RPA Idjouya Nyagihugu, ainsi que la radio-télévision Renaissance.
Dans la matinée du 3 mai cette année, Sel Baraf, la base des militaires burundais de la mission africaine de transition en Somalie, ATMIS, a été attaquée par les combattants du mouvement El-Shabaab. Le contingent burundais déplore 10 militaires tués et 5 portés disparus, avait précisé Floribert Biyereke, porte-parole de la Force de défense nationale du Burundi, FDNB, dans un communiqué de presse. Toutefois, les militaires sur terrain révèlent qu'ils ont perdu plus de 30 éléments. Jusqu'à présent, moins de 10 corps ont été retrouvés. Mais dans quel état sont les familles qui attendent toujours la vérité sur le sort des leurs? Et qu'en disent les psychologues? Les réponses, c'est dans le mini-magazine au cœur de la société de ce samedi 21 mai 2022. À la présentation, vous êtes avec Marie-Ange Irakoze, bienvenue. Ça fait aujourd'hui 17 jours que l'attaque contre la base des militaires burundaises de l'ATMIS à Sel Baraf a eu lieu. Cette attaque a coûté la vie à plus de 30 militaires burundais, selon les rescapés. Cependant, 7 corps seulement avaient été récupérés jusqu'à mardi dernier. Les chances d'en trouver encore davantage s'amenuisent. Et pire encore, officiellement, les familles qui ont perdu les leurs n'ont pas été signifiées. Grand est le chagrin dans ces familles. Nos confrères de la radio Inzamba ont réussi à s'entretenir avec quelques familles des victimes.
En plus de perdre les nôtres,
Les enfants qui laissent derrière mourront à leur tour de faim. Nous manquons quelqu'un pour venir nous consoler. Nous manquons qui pourrait officiellement nous annoncer la mort des nôtres. Vraiment, on appelle le gouvernement à se ressaisir et penser à aider les familles des victimes de cette attaque. Ils ont des cœurs brisés. Qu'ils essaient de se mettre à leur place. Nos cœurs sont remplis à la fois de peur et de chagrin parce que nous ne savons pas encore si les nôtres sont encore en vie ou s'ils sont morts. Alors, nous voudrions demander qu'ils fassent des efforts pour communiquer aux familles les décès des leurs qui étaient en Somalie. Une fois la vérité connue, nous ferons le deuil et ça nous évitera de rester à espérer revoir des gens qui sont déjà passés. Si tu vois le tien sortir le matin, mais attendre en vain son retour le soir, c'est choquant. Tu as besoin de quelqu'un qui te dise la vérité sur ce que sera devenu ton proche. Ceux qui ont des amis en Somalie et pour qui les époux se trouvent dans son pays, c'est pour qui les enfants s'y trouvent jusqu'à présent, nous n'avons pas été officiellement informés. D'une part, on essaie de garder espoir, mais de l'autre côté, il y a un sentiment de désespoir. On a besoin de la vérité pour faire le deuil et enfin lever le deuil. Pourquoi avoir honte d'annoncer à quelqu'un la mort de son proche? Ça ne suffit pas.
Anissé Savimana est psychologue. Il s'est entretenu avec nos confrères de la radio-télévision Renaissance. Pour lui, ces familles qui ne connaissent pas la vérité sur ce qui est arrivé au leur resteront avec des blessures impassables.
S'ils ne sont pas informés officiellement, les familles garderont l'espoir que le leur pourrait revenir demain ou après-demain. C'est trop dire qu'à une personne ne tournera pas la page. Surtout dans ces périodes de guerre, on peut espérer qu'une personne est encore en vie alors qu'il est mort. Cela aura un impact sur leur famille. Elles seront affectées psychologiquement. Une personne décide n'a plus ses facultés. Elle est mentalement dérangée de façon à ce qu'elle soit plus capable de s'organiser comme avant. Travailler comme avant, suivre les cours normalement, si elle est encore sur le banc de l'école.
Comme remède au choc psychologique de ces familles de victimes, Anissé Savimana demande au gouvernement de leur dire la vérité.
Je lance un appel à l'État de se ressaisir, qu'il accepte que les faits sont têtus. Il doit informer les familles des victimes, leurs conjoints, leurs parents, leurs fils et filles. Les victimes appartiennent à leur famille avant d'être des enfants du pays. Quoi qu'on fasse, on ne peut pas cacher la vérité éternellement. Même l'État cache la vérité aux familles des victimes, elles finiront par l'apprendre. Et si l'État le fait exprès pour faire souffrir son peuple, les décideurs devraient savoir qu'il peut arriver ce qui serait à ton prochain. Une personne qui a une blessure ne peut que blesser les autres. Si elle est encore jeune, elle grandira avec cette haine, cette colère, un cœur dur qui a soif de se venger. Elle sera convaincue qu'elle a été un enfant mal aimé par l'État.
C'est sur ces recommandations du psychologue que nous clôturons notre mini-magazine de ce samedi 21 mai 2022. Vous avez entendu que les familles des victimes sont chagrinées par le fait de ne pas pouvoir avoir le droit d'enterrer dignement les leurs et les blessures psychologiques qu'elles garderont le long de leur vie, selon le psychologue Anset Savimana. À la présentation, vous étiez avec Marie-Ange Irakodze. Toutes nos sincères condoléances aux familles éprouvées. Au revoir.
C'était l'émission Au cœur de la société.
Et pour terminer, voici la revue de presse hebdomadaire. Et c'est avec vous, Eddie-Claude Nimina Hadzoué.
Revue de la presse à la radio Indamba.
Bienvenue à toutes et à tous dans cette revue de presse que nous commençons par le journal Iwachu. Son quotidien d'information écrit que le général-major à la retraite Célestin Ndeissaba, connu sous le sobriquet de Kibadashi, prévenu coupable dans le dossier des assassins de Femelkion Dadaye, serait en danger de mort. Le problème, si l'on en croit sa famille, le ministère de la Justice refuse à donner son accord pour le transférer dans une structure de santé adaptée. Citant sa source, le journal Iwachu ajoute que ce général-major est aujourd'hui incapable de marcher sans l'aide des béquilles et que son état de santé ne cesse de se détériorer davantage. L'administration pénitentiaire de la prison centrale de Muramvya, où il est emprisonné de commun accord avec le médecin de l'hôpital de Muramvya, où il est soigné, ont décidé qu'il soit transféré à l'hôpital militaire de Kamenge. Mais jusqu'à aujourd'hui, le ministère de la Justice n'a pas encore autorisé ce transfert. Un proche de cet ancien officier de l'armée se demande pourquoi on lui refuse ce droit de se faire soigner, d'autant plus que, s'il y en est fait, dans l'immédiat, il risque de mourir. Pour rappel, le général-major Célestin Ndeissaba, alias Kibadashi, est emprisonné dans la prison de Muramvya depuis 2018 dans l'affaire de l'assassinat du président Melchior Ndadaye. Dans le domaine de la coopération, le journal ABP Info dit qu'il s'est tenu ce jeudi 19 mai 2022 à la quatrième session du dialogue entre l'Union européenne et le Burundi. L'objectif était entre autres d'échanger sur le nouveau chapitre entre le Burundi et l'UE. Dans cette session, le ministre ayant les affaires étrangères dans ses attributions, Albert Shingiro, s'est réjoui de l'état actuel de collaboration entre son gouvernement et l'UE. Il a réaffirmé l'engagement du Burundi à respecter ses engagements en la matière et de faire de ce dialogue un espace de renforcement du partenariat. Et justement, à propos de ce dialogue, nous lisons dans le journal Iwachu que les deux parties ont évalué le pas déjà franchi dans cette coopération bilatérale. Les discussions ont été axées sur les opportunités économiques, en plus des questions relatives à la justice, aux droits de l'homme et l'égalité des genres. Le journal Iwachu poursuit en disant que la chef de la division Afrique centrale au sein de l'UE, Aude Maiyo-Kolisch, a indiqué dans la réunion que la coopération directe entre l'UE et le gouvernement du Burundi doit être bénéfique pour la population, précisant que dans une relation plus proche, il est toujours important d'aborder les aspects qui fonctionnent bien et d'autres qui fonctionnent moins bien dans la gestion du Burundi. Et puis le journal ABP Info écrit que prochainement les alcotests et les caméras de surveillance seront bientôt utilisées dans le contrôle de la circulation routière. L'annonce a été faite par Gervain Ndirakobucha, ministre burundais de l'Intérieur, ce mercredi à la Chambre haute du Parlement, le Sénat. Dans les raisons qu'il a données, il a évoqué le surnombre des objets roulants, les chauffeurs qui ne respectaient pas le code de la route et d'autres qui conduisent dans un état d'ébriété ou sans permis de conduire. Il a dit que cette situation débouche sur la provocation de beaucoup d'accidents graves. Terminons cette revue de presse par le journal SOS Média qui nous parle d'un centre de traitement de la COVID-19 transformé en maternité à l'hôpital clinique Ponce-Louis Guagasore, en mairie de Bujumbura. Aujourd'hui, les patients atteints de cette maladie, leur famille et encore le personnel soignant ne savent plus à quel sens se vouer. Ils tiennent la sonnette d'alarme, ils disent qu'ils sont livrés à eux-mêmes, n'ayant plus où se faire soigner. Pour le moment, certes, les cas de Covid-19 ont diminué, mais les salariés de cet hôpital disent qu'il n'y a encore de cas de Covid qui se confient à eux, mais qui ne reçoivent plus de soins. Ce centre de traitement avait été construit en urgence sur un financement de la Banque mondiale de plus de 100 000 dollars américains suite à l'explosion de cas de coronavirus en 2021. Mais actuellement, ce centre ne reçoit plus de patients de Covid-19 pour lesquels il avait été construit, ajoute le journal SOS Média. Voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi.
Revue de la presse à la radio Inzamba.
Fin de cette édition. Merci à la rédaction de la radio Inter Bagateka Kawe pour la production de ce journal. À toutes, à tous, je vous souhaite un agréable week-end. Au revoir.